Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter le journal et on commence avec les titres. La coopération entre BNPB et AHA Center pour anticiper des catastrophes de l'ASEAN. L'Indonésie et l'Iran discutent des affaires du secteur de l'énergie. Le yacht Caledonian Sky Cruise a fait escale à Wakatobi. Le Kuwait construira une raffinerie de pétrole à Tuban. BKPM a offert le programme de la facilité de permis de la construction CLIC à 100 investisseurs sud-coréens. L'ambassade du Canada, l'Indonésie était comme un modèle de la tolérance de religion et de conviction. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. La coopération entre l'Agence nationale de gestion des catastrophes au BNPB Indonésie et le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire ou AHA Center ou l'Organisation internationale des membres de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes vise à anticiper et améliorer la préparation des communautés contre les catastrophes naturelles. Cette coopération est très importante pour que l'Indonésie développe toujours la capacité dans la gestion des catastrophes, surtout parce que l'Indonésie a des expériences sur des catastrophes naturelles qui ont lieu entre les pays membres de l'ASEAN. Cela a été déclaré par le chef de BNPB, M. Willem Rampangilei, à la signature de la coopération et BNPB et AHA Center mardi à Jakarta. Willem a déclaré que la coopération entre l'Indonésie comme l'autre et le Centre de coordination de l'ASEAN pour la monétaire comme une option facilite la coordination entre les pays de l'ASEAN liés à la gestion des catastrophes. Il se concentre sur la mise en œuvre de la vision de un ASEAN, une réponse. Cette vision est une mission d'être organisation régionale, d'autres organismes internationaux et d'autres acteurs humanitaires dans la gestion des catastrophes afin de minimiser les pertes, le nombre de réfugiés et les pertes subies. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales a rencontré la délégation iranienne pour discuter bilatéralement sur l'investissement dans le secteur de l'énergie le mardi. Le directeur général de pétrole et de gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, IGN Wiratmaja Puja, a déclaré lundi à Jakarta que la réunion avec la direction générale de l'Iran était plus axée sur la question de l'approvisionnement du pétrole et du gaz national. Selon Wiratmaja Puja, cité par Republika, le gouvernement indonésien est intéressé à faire coopération avec l'un des pays du Moyen-Orient parce que le prix du gaz en Iran est vraiment pas cher. Si l'Indonésie fait une usine d'engrais en Iran, il pourrait être porté à l'Indonésie, ainsi il y aura la coopération mutuelle. Mardi, le yacht Caledonian Sky Cruise, qui a transporté les touristes de divers pays, a fait escale à Wakatobi, Sulawesi du Sud-Est. La région de Wakatobi, Hugua, a déclaré lundi à Kendari que la navire de croisière Chiave fiscale à la Wakatobi a été partie de l'Australie. Selon la région de Wakatobi, comme cité par Antara, le navire de croisière Caledonian Sky, transportant des dizaines de touristes étrangers, a arrêté au district de Wakatobi parce que cette région était reconnue comme l'un des 10 principales destinations touristiques d'Indonésie. Wakatobi, en tant que destination touristique mondiale, possède de biodiversité très élevée par rapport à d'autres régions dans le monde. La région de Wakatobi, Hugua, a ajouté, dans les eaux de Wakatobi, le nombre de récifs coralliens a atteint 750 espèces, soit environ 90% de toutes les espèces de corail dans le monde existent à Wakatobi. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Kuwait considéra une raffinerie de pétrole à Tuban, Java Est, comme une forme d'investissement par les investisseurs de ce pays en Indonésie. Lors d'une interview avec l'agence de presse Antara mardi à Jakarta, l'ambassadeur de Kuwait en Indonésie, Abdul Wahab Abdullah Al-Sagir, a déclaré que son pays était prêt à aider à construire une raffinerie de pétrole qui est intégrée à Petrochimie Gresik. Nous sommes heureux d'investir en Indonésie, qui est un pays musulman le plus grand dans le monde, a déclaré Al-Sagir, qui habitait en Indonésie depuis 2 mois. Selon lui, en plus de la construction d'une raffinerie de pétrole, le Kuwait fournira également du pétrole brut à cette raffinerie. Le directeur de l'exploitation de Pertamina, M. Rahmat Hardadi, a expliqué précédemment qu'il y aura 6 entreprises qui formeront un consortium pour la construction de la raffinerie de pétrole à Tuban. Les investisseurs dans le projet de la raffinerie de Tuban seront pincés en 6 sociétés telles que Rosneft de la Russie, Saudi Aramco de l'Arabie Saoudite, L'Asian Offshore National Corporation, Kuat Petroleum International, PTTGC Thailand et Thai Oil. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, a ouvert le programme de la facilité de permis de la construction, ou CLIC, de 3 heures pour les infrastructures à 100 investisseurs sud-coréens dans l'événement du dialogue d'affaires de la Corée mardi à Jakarta. Cet événement a été organisé en coopération avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud pour renforcer l'investissement intérieur de ce pays qui a atteint 1,2 milliard de dollars américains en 2015. Le chef de BKPM, M. Franky Sibarani, dans une déclaration écrite mardi citée par Les Publica, a expliqué que les investisseurs sud-coréens qui voulaient investir en Indonésie peuvent réaliser rapidement son investissement en profitant des services d'investissement de 3 heures et la facilité d'investissement direct dans la construction. Il a souligné que les investissements en provenance de la Corée du Sud en 2015 ont augmenté de 7,6% à la même période de l'année précédente. Franky Sibarani espère que l'événement qui est soutenu par la Chambre coréenne de commerce et d'industrie et l'Agence coréenne du commerce et de la promotion des investissements pour augmenter les investissements de la Corée du Sud. Le conseiller pour la politique et les relations publiques de l'ambassade canadienne, Ellen Viau, a déclaré que l'Indonésie devrait être fière d'avoir la diversité de religions et la tolérance. Comme cité par Republika, Ellen Viau, lors du Congrès national de la liberté d'État et de conviction à Jakarta mardi, a déclaré qu'avec le grand nombre de musulmans dans le monde, l'Indonésie pouvait être un modèle pour d'autres régions dans la gestion de la société plus tolérante et pacifique. Dans son discours, Ellen a affirmé que le nouveau premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'engager à promouvoir les valeurs de tolérance et de diversité. Pendant 25 ans, le Canada était le partenaire de l'Indonésie pour promouvoir le pluralisme. Il a dit que l'ambassade canadienne soutenait pleinement ce congrès. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le premier ministre britannique a annoncé un référendum ». Le premier ministre britannique David Cameron a annoncé un référendum sur l'adhésion du pays à l'Union européenne. Le référendum aura lieu le 23 juin 2016. Ce jour-là, le peuple britannique décidera de rester dans l'Union européenne ou à l'extérieur de l'organisation. Les voix du peuple britannique qui veulent la Grande-Bretagne sortir de l'Union européenne sont plus intensifiées depuis l'Europe est touchée par la crise économique. D'autre part, l'économie de la Chine et l'Inde sont en croissance rapide. Le ministre des Finances britannique George Osborne estime que l'Union européenne doit être réformée. Sinon, le peuple britannique sera confronté avec le choix de rester à joindre ou sortir de l'Union européenne. Pour Osborne, sortir de l'Union européenne n'est pas bon pour la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le premier ministre britannique David Cameron a promis, s'il est élu à nouveau aux élections de 2015, il va réformer l'Union européenne et organiser un référendum au Royaume-Uni afin de décider si le pays reste à rejoindre ou sortir de l'Union européenne. Cameron a ensuite réussi à négocier avec l'Union européenne qui a donné l'Angleterre un statut spécial dans l'organisation régionale. Le Royaume-Uni peut continuer à utiliser leur propre monnaie et peut limiter la garantie de bien-être pour les ressortissants étrangers qui travaillent dans ce pays. Cette politique vise à réduire le nombre d'immigrants en Angleterre. La Cour de l'Union européenne pourrait changer d'avis de ceux qui veulent la Grande-Bretagne sortir de l'Union européenne. Jusqu'à présent, le Premier ministre David Cameron est soutenu par 16 membres de son cabinet de rester adhéré à l'Union européenne et 6 autres ministres soutiennent la sortie de l'Union européenne. Qu'arriverait-il si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne? Qui sont en désaccord estiment que le Royaume-Uni sera de plus en plus isolé de la communauté internationale. Selon ceux qui appuient, le Royaume-Uni peut économiser des milliards de livres du coût de traitement des réfugiés et des ressortissants étrangers des demandeurs d'emploi dans le pays. Pour l'Union européenne, l'adhésion de la Grande-Bretagne dans l'organisation est très importante. L'Allemagne perdra un partenaire fort si ce pays est sorti. L'existence du Royaume-Uni dans l'Union européenne a fait que cette organisation est plus stable économiquement et politiquement. D'autre part, il est également important pour les États-Unis parce que cela signifie que les États-Unis ont l'allié européen qui est plus fort dans la prise de décision dans le domaine du commerce et de la sécurité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui qui informe une variété d'événements historiques. Nous commençons par les événements de Juan Perón, qui a été élu comme président de l'Argentine en 1943. Juan Domingo Perón était un personnage controversé en Argentine. En 1944, il a été nommé comme vice-président et le ministre de la guerre. Un an plus tard, Juan Perón a été renversé de ses fonctions et emprisonné. Toutefois, sous la pression des travailleurs qui le soutiennent, il a été immédiatement libéré de nouveau. Il a épousé une femme nommée Eva Duarte. Evita Perón est un partisan politique et conseiller important de Juan Perón. Lorsque le 24 février 1946, il a été élu président.
en tant que président, Juan Perón a obtenu un grand soutien. Mais ensuite, il se transforme en une pression autoritaire et exerce sur l'opposition et les médias de masse. En 1952, Evita Perón est mort. Trois ans plus tard, Juan Perón a été renversé et il a habité à l'étranger pendant 18 ans. En 1973, Juan Perón a retourné en Argentine et a gagné l'élection présidentielle. Chers auditeurs, nous continuons avec les événements qui ont eu lieu le 24 février 1991. Les attaques à la guerre du Golfe ont été commencées. Après 6 semaines de campagne de bombardement intensif contre l'Irak dans la guerre du Golfe, les forces de coalition dirigées par les États-Unis ont commencé leurs attaques. Cette guerre a eu lieu après le 2 août 1990. L'Irak a envahi le Koweït et quelques heures, ce pays avait occupé des postes les plus stratégiques dans le pays. 3 mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui contient une autorisation d'utiliser la force militaire. Si jusqu'à 15 janvier, l'Irak n'a pas levé le pied à partir de là, le 16 janvier, on a commencé l'opération Tempête de désert, qui a été commencée avec le bombardement aérien vers la ville de Bagdad. Chers auditeurs, nous terminons le programme de l'histoire d'aujourd'hui avec les événements de tremblement de terre dans le nord de Maroc. La région du nord de Maroc, mardi le 24 février 2004, a été secouée par un séisme de magnitude 6,5 sur échelle de Richter. Le tremblement de terre qui a frappé la ville portuaire de la région Al-Hoceima au Maroc a eu lieu à 2h20. 7. Selon les informations, l'épicentre est estimé à 100 milles au nord-est de la ville de Fès Voyage, au fond de la mer Méditerranée. Ce tremblement de terre a tué près de 600 personnes et laissé des milliers de personnes sans abri. Outre la ville d'Al-Hoceima, environ 6 villes dans les environs, y compris la ville de Fès et Taja, sont également affectés par le tremblement de terre, qui a signalé aucune victime. C'était le plus grand tremblement de terre depuis la catastrophe qui a tué 12 000 personnes dans la ville d'Ajadir en 1960. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serge Tar, bonsoir. Voici la mise au point sur l'environnement ayant pour titre. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a défini 12,7 millions d'hectares de zones forestières pour des activités de foresterie sociale. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts a alloué la zone forestière d'une superficie de 12,7 millions d'hectares pour les activités de foresterie sociale. Cela se fait en impliquant la communauté à travers les plantations forestières communautaires, la foresterie sociale, la foresterie du village, le forêt traditionnel et le forêt folklorique ou partenaire. Cela a été dit par le directeur général des forêts sociaux et du partenariat du ministère de l'Environnement et des Forêts, Hadi Daryanto, au dialogue hebdomadaire sur l'environnement et des forêts le jeudi à Jakarta. La foresterie sociale est un système et la forme de la gestion des forêts qui implique la participation de diverses parties ou divers éléments sociaux qui peuvent être faits n'importe où, sur un terrain privé, public ou dans la zone forestière autorisée. La foresterie sociale ne donne pas seulement l'attention au rôle et aux droits du peuple, mais à la participation et l'intérêt des différentes parties sur la gestion des ressources forestières qui combinent les activités de protection, le bien-être des communautés locales et des objectifs de production durable. la foresterie sociale est l'inspiration pour la justice sociale, à savoir la grande utilisation des forêts pour le bien-être du peuple. Sur la base des résultats d'études du ministère de l'Environnement et des Forêts, la zone de la foresterie sociale potentielle est estimée à plus de l'objectif de la zone forestière, à savoir avec une vaste de plus de 13,5 millions d'hectares. Le potentiel de cette zone est dans la forêt de production, avec la superficie d'environ 5 millions d'hectares, dans la forêt protégée d'environ 3 millions d'hectares et dans les tourbières d'environ 2 millions d'hectares qui servent à l'utilisation de services environnementaux et de produits forestiers non ligneux, y compris la zone de licence des forêts industrielles. Afin d'obtenir l'emplacement de la zone de la foresterie sociale sûre et efficace, le gouvernement fait l'approfondissement de la superficie potentielle en regardant de nouveau la présence des communautés locales ou communautés autochtones vivant dans cette zone potentielle. L'approfondissement impliquant l'organisation non gouvernementale obtient une superficie d'environ 4 millions d'hectares qui est vérifiée comme forêt indigène. Selon Darianto, la publication de licences des forêts sociales et les plantations forestières de population et les forêts autochtones pour la zone des forêts sociales peut être faite en ligne, tandis que pour les organisations non gouvernementales recevront une carte pour être en mesure d'accéder aux services en ligne. En 2015, le gouvernement a fixé la réserve de la détermination de la zone de travail des forêts de village, les forêts sociales, les plantations forestières communautaires et de partenariat. Pendant ce temps, en 2016, le gouvernement espère de pouvoir enseigner et distribuer les affaires de la population indépendante à 265 groupes d'affaires de la foresterie sociale. Darianto a ajouté, en 2016, le gouvernement indonésien prévoit également d'améliorer 3 règlements ministériels associés aux forêts de village, la forêt communautaire et la plantation forestière communautaire. Ces règlements devraient faciliter l'ouverture de licences directes sur la base de la carte indicative de la zone de la foresterie sociale qui est servie en ligne aidée par le groupe de travail de l'accélération de la foresterie sociale. C'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel de titres de l'actualité.
La coopération entre l'Agence nationale de gestion des catastrophes au BNPB Indonésie et le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire au AHA Center ou l'Organisation internationale des membres de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes vise à anticiper et améliorer la préparation des communautés contre les catastrophes naturelles. Cette coopération est très importante pour que l'Indonésie développe toujours la capacité dans la gestion des catastrophes, surtout parce que l'Indonésie a des expériences sur des catastrophes naturelles qui ont lieu entre les pays membres de l'ASEAN. Cela a été déclaré par le chef de BNPB, M. Willem Rampangilei, à la signature de la coopération et BNPB et AHA Center mardi à Jakarta. Willem a déclaré que la coopération entre l'Indonésie comme l'OT et le Centre de coordination de l'ASEAN pour la monétaire comme une facilite la coordination entre les pays de l'ASEAN liés à la gestion des catastrophes. Il se concentre sur la mise en œuvre de la vision de un ASEAN, une réponse. Cette vision est une mission d'aide organisations régionales, d'autres organismes internationaux et d'autres acteurs humanitaires dans la gestion des catastrophes afin de minimiser les pertes, le nombre de réfugiés et les pertes subies. Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales a rencontré la délégation iranienne pour discuter bilatéralement sur l'investissement dans le secteur de l'énergie le mardi. Le directeur général de pétrole et de gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales IGN Wiratmaja Puja a déclaré lundi à Jakarta que la réunion avec la direction générale de l'Iran était plus axée sur la question de l'approvisionnement du pétrole et du gaz national. Selon Wiratmaja Puja, cité par Republica, le gouvernement indonésien est intéressé à faire coopération avec l'un des pays du Moyen-Orient parce que le prix du gaz en Iran est vraiment pas cher. Si l'Indonésie fait une usine d'engrais en Iran, il pourrait être porté à l'Indonésie, ainsi il y aura la coopération mutuelle. Mardi, le yacht Caledonian Sky Cruise, qui a transporté les touristes de divers pays, a fait escale à Wakatobi, Sulawesi du Sud-Est. La région de Wakatobi, Hugua, a déclaré lundi à Kendari que la navire de croisière qui a fait escale à la Wakatobi a été partie de l'Australie. Selon la région de Wakatobi, comme cité par Antara, le navire de croisière Caledonian Sky transportant des dizaines de touristes étrangers a arrêté au district de Wakatobi parce que cette région était reconnue comme l'un des 10 principales destinations touristiques d'Indonésie. Wakatobi, en tant que destination touristique mondiale, possède de biodiversité très élevée par rapport à d'autres régions dans le monde. La région de Wakatobi, Hugua, a ajouté, dans les eaux de Wakatobi, le nombre de récifs coralliens a atteint 750 espèces, soit environ 90% de toutes les espèces de corail dans le monde existent à Wakatobi. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Kuwait considère une raffinerie de pétrole à Tuban, Java Est, comme une forme d'investissement par les investisseurs de ce pays en Indonésie. Lors d'une interview avec l'agence de presse Antara mardi à Jakarta, l'ambassadeur de Kuwait en Indonésie, Abdul Wahab Abdullah Al-Sagir, a déclaré que son pays était prêt à aider à construire une raffinerie de pétrole qui est intégrée à Petrochimie Gresik. Nous sommes heureux d'investir en Indonésie, qui est un pays musulman le plus grand dans le monde, a déclaré Al-Sagir, qui habitait en Indonésie depuis 2 mois. Selon lui, en plus de la construction d'une raffinerie de pétrole, le Kuwait fournira également du pétrole brut à cette raffinerie. Le directeur de l'exploitation de Pertamina, M. Rahmat Hardadi, a expliqué précédemment qu'il y aura 6 entreprises qui formeront un consortium pour la construction de la raffinerie de pétrole à Tuban. Les investisseurs dans le projet de la raffinerie de Tuban seront pincés en 6 sociétés telles que Rosneft de la Russie, Saudi Aramco de l'Arabie Saoudite, l'Asian Offshore National Corporation, Kuwait Petroleum International, PTT GC Thailand et Thai Oil. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, a ouvert le programme de la facilité de permis de la construction, ou CLIC, de 3 heures pour les infrastructures à 100 investisseurs sud-coréens dans l'événement du dialogue d'affaires de la Corée mardi à Jakarta. Cet événement a été organisé en coopération avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud, pour renforcer l'investissement intérieur de ce pays qui a atteint 1,2 milliard de dollars américains en 2015. Le chef de BKPM, M. Frankie Sibarani, dans une déclaration écrite mardi citée par Republika, a expliqué que les investisseurs sud-coréens qui voulaient investir en Indonésie peuvent réaliser rapidement son investissement en profitant des services d'investissement de 3 heures et la facilité d'investissement direct dans la construction. Il a souligné que les investissements en provenance de la Corée du Sud en 2015 ont augmenté de 7,6% à la même période de l'année précédente. Frankie Sibarani espère que l'événement, qui est soutenu par la Chambre coréenne de commerce et d'industrie et l'Agence coréenne du commerce et de la promotion des investissements, pour augmenter les investissements de la Corée du Sud. Le conseiller pour la politique et les relations publiques de l'ambassade canadienne, Ellen Viau, a déclaré que l'Indonésie devrait être fière d'avoir la diversité de religions et la tolérance. Comme cité par Republika, Ellen Viau, lors du Congrès national de la liberté d'État et de conviction à Jakarta, mardi a déclaré qu'avec le grand nombre de musulmans dans le monde, l'Indonésie pouvait être un modèle pour d'autres régions dans la gestion de la société plus tolérante et pacifique. Dans son discours, Hélène a affirmé que le nouveau premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'engageait à promouvoir les valeurs de tolérance et de diversité. Pendant 25 ans, le Canada était le partenaire de l'Indonésie pour promouvoir le pluralisme. Il a dit que l'ambassade canadienne soutenait pleinement ce congrès. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, serviteurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter la plage Mutun à Gunung Kidul en province de Yogyakarta. Serviteur, si vous recherchez belle plage, mais il est rarement visité par les touristes, vous pouvez aller à la plage Ngetun. La plage Ngetun est située au hameau Sureng, Gunung Kidul, la province de Yogyakarta. Il est assez difficile de la trouver parce que son emplacement est derrière le bâtiment de l'école élémentaire de Tepus. Vous pouvez passer la route qui est à côté de l'école. Après son arrivée à l'intersection, vous prenez la route droite et traversez deux villages. Après avoir passé le champ, vous trouverez les sources d'eau. Ici, vous pouvez garer votre véhicule. Ensuite, vous devez continuer votre voyage en marchant à travers les pierres glissantes. La plage Ngetun, qui est flanquée par de hautes collines, rend cette plage comme belle petite baie. Les visiteurs peuvent monter la colline pour profiter de la belle plage Ngetun. Serviteur, lors d'arriver à la plage Ngetun, votre fatigue disparaît immédiatement. Vous voyez le sable blanc et la plage propre, ce qui est encore naturel. Le chant des vagues qui frappe des récifs coralliens, des collines vertes et des arbres autour du bord de la plage vous fait sentir à l'aise. Parfois, vous pouvez trouver des tortues sur la plage qui pondent. Serviteur, sur la plage Ngetun, vous pouvez également trouver un beau paysage caché. La ruelle des arbres avant d'entrer dans la plage est comportée de bienvenue. La plage Ngetun a du sable lisse. Habituellement, les gens locaux attrapent les homards au sommet de deux collines en position assise et de détente sous les arbres ombragés. Il est très plaisir, n'est-ce pas? Serviteur, Ngetun ou Getun en javanais signifie dessous. Mais nous garantissons que vous ne serez pas dessous si vous avez réussi à arriver à la plage Ngetun. Parce que cette plage est très belle, bien qu'elle soit calme. Entièrement, cette plage est naturelle, belle et apte à être visitée par des gens qui aiment l'adrénaline. En raison de la route difficile, il rend beaucoup de gens d'annuler leur désir de visiter cette plage. Pour aller à cette plage, nous vous suggérons d'avoir une bonne préparation pour éviter l'obstacle dans votre voyage. Et s'il vous plaît, ne pas oublier d'apporter votre propre nourriture et des boissons, parce que sur cette plage, il n'y a pas d'étal. chers auditeurs et auditrices, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage Ngetun ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intense encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de quatre coins du monde. Nous nous retrouvons dans le programme Apprendre l'indonésien, une rubrique qui introduit des mots de vocabulaire et des expressions en indonésien et leur utilisation dans la conversation. Le sujet d'aujourd'hui est mendaftar sekolah kanak-kanak ou s'inscrire à l'école maternelle. Écoutez d'abord le vocabulaire et les expressions liées à la conversation d'aujourd'hui. Baju seragam, en français, uniforme. Putra, putra, en français, fils. Putih, putih, en français, blanc. Dipakai, dipakai, en français, être porté. Hari Senin, en français, lundi. Biru, biru, en français, bleu. Baju olahraga, en français, vêtements de sport. Dua pasang, en français, deux paires. Kaos kaki, en français, chaussette. Sepatu, sepatu, en français, chaussure. Buku gambar, en français, livre d'image. Pensil warna, en français, crayon de couleur. Hitam, hitam, en français, noir. Facilitas, facilitas, en français, facilité. Arena bermain, en français, arène de jouer. Docteur anak, en français, pédiatre. Docteur gigi, en français, dentiste. Membaca, membaca, en français, lire. Brochure, brochure, en français, brochure. Chers auditeurs, écoutez le dialogue entre Nita, A, et la directrice de l'école maternelle, B. A.
Saya sudah tahu persyaratan masuk ke sekolah TK ini. Saya sudah tahu persyaratan masuk ke sekolah TK ini. Je connais déjà les conditions d'entrée à l'école maternelle. Bagaimana mengenai baju seragam? Bagaimana mengenai baju seragam? Comment sont les uniformes? B. Putra ibu akan mendapatkan satu setel seragam warna putih-putih yang dipakai pada hari Senin. Putra ibu akan mendapatkan satu setel seragam warna putih-putih yang dipakai pada hari Senin. Votre fils recevra un uniforme de couleur blanc qui est porté lundi. Satu setel seragam warna putih biru yang dipakai hari Selasa. Satu setel seragam warna putih biru yang dipakai hari Selasa. Un uniforme de couleur blanc et bleu qui est utilisé mardi. Satu setel seragam olahraga. Satu setel seragam olahraga. Un uniforme de sport. Satu setel seragam batik. Dan satu setel seragam batik. Et un uniforme de batik. Selain itu ada dua pasang kaos kaki putih. Selain itu ada dua pasang kaos kaki putih. En outre, il y a deux paires de chaussettes blanches. Satu pasang sepatu hitam. Satu pasang sepatu hitam, une paire de chaussures noires, satu pasang sepatu olahraga, satu pasang sepatu olahraga, une paire de chaussures de sport, juga buku gambar dan pensil warna. Juga buku gambar dan pensil warna. Aussi bien un livre d'images et des crayons de couleur. A. Apa saja fasilitas sekolah TK ini? Apa saja fasilitas sekolah TK ini? Quelles sont les facilités de cette école maternelle? B. Selain arena bermain, sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. Selain arena bermain, sekolah ini juga mempunyai dokter anak dan dokter gigi. En plus d'une arène de jouer, l'école dispose également un pédiatre et un dentiste. Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. Sebelum mendaftar, silakan ibu membaca brosur ini. Avant de s'inscrire, lisez s'il vous plaît cette brochure, madame. Chers auditeurs, c'était Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de quatre coins du monde. Comment allez-vous? Nous espérons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix d'Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter un chanteur légendaire du rock et pop qui s'appelle Ahmad Albar. Voici sa première chanson intitulée « L'autobus ». Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure la première chanson intitulée L'autobus, chantée par Ahmad Albar. Ahmad Sheikh Albar, ou plus connu sur le surnom Ahmad Albar ou Iye, est né à Surabaya, Java Est, le 16 juillet 1946. Il est un chanteur de groupe de musique rock God Bless. Il a commencé sa carrière au monde du divertissement lorsqu'il a joué dans un film pour les enfants intitulé Le Général Kancil en 1957. Sa carrière dans la musique a été commencée depuis l'âge de 11 ans. Lui et ses amis ont fondé une bande Bintang Remaja lorsqu'ils ont participé au festival de musique pour les enfants à Lapangan Banteng, Jakarta. Dans la même année, Iye a formé un groupe appelé Bintang Remaja et Quarta Nada. Iye est allé aux Pays-Bas en 1960 et a fondé un groupe de musique Take Five de 1966 jusqu'à 1967 et il a remporté le meilleur chanteur dans le festival de musique. Un an plus tard, il a créé un groupe et a sorti 9 chansons. En 1972, Iye a retourné à l'Indonésie et en 1973, il a formé un nouveau groupe, God Bless, qui se compose de Fuad Hassan comme batteur, Donny Fatah bassiste, Yoki clavier et Ludwig Lemans guitariste. En 1975, ils ont réussi à sortir un album God Bless et leur succès grâce à cet album. Ensuite, il a publié quelques albums. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Ahmad Albar intitulées La poésie de la vie.
lagu kehidupan.
Merci d'écouter la voix d'Ironésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical chanté par Ahmad Albar. Dans les années 80, God Bless a annoncé Avid, mais il existe encore avec une carrière en solo. Ensuite, il a formé un groupe, le duo appelé Duo Kribo avec Ucok Harahap. Il a sorti trois albums tels que Neraka Jahanam en 1977, Pelacur Tua en 1978, et Panggung Sandiwara en 1978. Il a également lancé plusieurs albums solo. En 1979, il a sorti un album de dangdut intitulé Zakia qui était très succès sur le marché. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, nous allons présenter deux chansons intitulées Attendre l'honnêteté et Ça ne fait rien, Je suis allé. Tous les deux sont chantés par Ahmad Albar. Merci à tous et à bientôt.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.